l'heure de l'essai du jour et de la revue du jour. Jacques Munier, bonjour Jacques.
Bonjour Marc, bonjour à tous et à toutes.
Et aujourd'hui, l'ami du mensonge, Philippe Sedès.
Voilà, Philippe Sedès, l'ami du mensonge, un dialogue présenté, traduit du grec et annoté par Monique Kantorov, publié chez Hermann. Alors Lucien, de son nom complet, Lucien de Samosate, parce qu'il est né au IIe siècle à Samosate, dans le nord de l'ancienne Syrie, était un sophiste et ironique philosophe, et comme spécialiste de la rhétorique, il a exercé le métier d'avocat. Passé maître dans l'art de l'éloge paradoxal, on lui doit notamment un cocasse éloge de la mouche et un réjouissant éloge du parasite. Il fait figure de libre penseur et d'iconoclaste à une époque, le siècle de Marc Aurèle, où la philosophie avait acquis dans le monde gréco-romain une place qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Les philosophes avaient, si l'on peut dire, pignon sur rue, ils étaient moralistes et directeurs de conscience professionnelle. Et même si la préférence de Lucien allait à Épicure, il n'a jamais récusé les maîtres dont se réclamaient ses contemporains, mais seulement la prétention des épigones. Il est vrai que dans un savoureux dialogue, philosophe à vendre, il parodie avec finesse les grandes doctrines en mettant en scène Platon, Aristote ou Diogène le cynique sur l'estrade d'un marché aux esclaves, chacun devant faire l'article en résumant sa philosophie, voire comme Diogène présenté sous les traits d'un clochard hirsute et repoussant, en marmonnant sa mauvaise humeur et en vilipendant son public. Et ici, dans le Philippe Sedès, ce sont encore des philosophes qui sont raillés pour leur crédulité et surtout pour leur rôle dans la diffusion irréfléchie des invraisemblances de la mythologie et des fariboles des magiciens qui tirent profit de la superstition populaire. Cette attitude de libre penseur lui aurait attiré une foule d'ennemis et un auteur chrétien, quelques siècles plus tard, le traite d'athée, de blasphémateur et de scélérat. Monique Kantorov, qui a traduit donc et présenté ce dialogue, ainsi que celui qui lui fait suite, Alexandre ou le faux prophète, le pseudo-mantis, le compare à Diderot, mais on pourrait aussi évoquer la figure de Voltaire qui s'est inspiré de son histoire véritable, qui raconte un voyage sur la Lune, pour son Micromégas. Il y a quelque chose d'étonnamment moderne et rafraîchissant dans le ton et l'ironie de Lucien de Samosate. Le titre grec, Philippe Sedès, est formé du mot pseudos, qui signifie mensonge, mais aussi une histoire invraisemblable où se mêlent l'étrange, le merveilleux ou l'effrayant, et puis de philia, qui signifie l'amitié, et qui est présent dans le mot philosophe, ce n'est pas un hasard. Car les personnages sont ici plutôt amis de l'obscurantisme que de la sagesse ou de la raison. Il y a Eucratès, à la longue barbe, chez qui se déroule la conversation, Cléodémos, le péripatéticien, adepte de la philosophie d'Aristote, Deinomachos, le stoïcien, Ion, le platonicien, qui prétend être le seul à avoir exactement compris la pensée du maître, Antigonos, un médecin appelé pour soigner les rhumatismes dont souffre Eucratès, et enfin le pythagoricien Arignotès, aux longs cheveux et à l'allure de gourou. Lucien semble compter sur lui pour ramener ses interlocuteurs à la raison, mais le voilà qui se lance dans une histoire de fantômes neutralisée par des incantations en Égypte. D'entrée, dans la présentation du dialogue faite par Tychiades, le porte-parole de Lucien, sont écartés ceux qui, comme Ulysse, sont mentis par nécessité. De même, les fables d'Hérodote et d'Homère lui-même, transmises de génération en génération, sont excusables, soit par l'ignorance, soit par le penchant naturel de la poésie pour le merveilleux. Mais lorsque des cités, des peuples entiers relaient les sornettes de la mythologie, la castration d'Ouranos, l'enchaînement de Prométhée, ou comment Zeus s'est transformé en taureau ou en cygne par amour, Lucien parle de maladie et même d'épidémie, celle des amoureux du mensonge. Celle des Athéniens qui croient dur comme fer que les premiers hommes ont poussé du sol de l'Attique comme des légumes, ou des Crétois qui font visiter sans vergogne le tombeau de Zeus. Même si en débarrassant la Grèce de ses curiosités fabuleuses, je cite, les guides n'auraient plus qu'à mourir de faim et les visiteurs étrangers n'auraient aucune envie d'entendre raconter des faits véridiques, même gratuitement. La controverse rapportée par Lucien s'engage alors sur le terrain des remèdes à appliquer au rhumatisme d'Eucratès. Cléodémos disserte doctement des avantages comparés de l'application d'une peau de lion récemment écorchée ou de celle d'une jeune biche qui n'a pas été couverte. Croyez-vous donc, demande Lucien, que l'on puisse apaiser par des incantations ou des applications externes ces douleurs dont la cause est interne ? Et il ajoute qu'il a souvent vu le lion lui-même boité de douleur alors qu'il était vêtu de sa propre peau tout entière. À partir de là, et pour convaincre le sceptique, s'enchaînent les histoires toutes plus fabuleuses et fantastiques les unes que les autres. Une guérison miraculeuse racontée par le platonicien qui jure ses grands dieux avoir vu le démon expulsé qui sortait tout noir et enfumé. « Tu n'as pas trop de mal à voir un tel spectacle », lui retourne Lucien, « toi à qui apparaissent clairement les idées que nous révèle notre maître Platon ». Eucratès raconte son voyage en enfer, Cerbère trépassé et même son propre père au programme de la visite guidée par Hécate. Il n'est pas jusqu'à Antigonos le médecin qui n'est une histoire de statue qui prend ses aises, comme chez lui un Hippocrate en bronze qui parcourt toute la maison en faisant du bruit, renverse les boîtes à remèdes, mélange les médicaments et retourne le mortier si on laisse passer la date du sacrifice qu'on lui offre chaque année. Dégoûté de voir ces vieillards bouche bée, l'œil fixe, s'écouter les uns les autres et littéralement saoulés par leurs paroles, Lucien prend congé plus que jamais fidèle au seul antidote à toutes ces balivernes, la vérité et la droite raison qui résistent à tout.
Et logiquement, bien sûr, la revue du jour, c'est la revue Écrire l'histoire sur le mensonge.
Voilà, une revue consacrée aux histoires, aux discours sur l'histoire. Alors, les mensonges d'Hérodote et son goût pour le merveilleux faisaient rougir Lucien et dès l'Antiquité, l'historien avait été accusé de mensonges. Il est ici question plutôt des images de la guerre entre vérité et mensonge, un dossier coordonné par Karine Trévisan, des images qui modèlent non seulement notre perception mais également notre mémoire des événements.
Merci Jacques Munier, à demain.